T'es avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient, bienvenue si vous nous rejoignez, appelez-nous, exprimez-vous comme tous les matins, vous le savez à cette heure-ci, RFI vous donne la parole, ce sont d'abord vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité et ensuite comme tous les matins, un débat, nous parlerons tout à l'heure dans 30 minutes de l'insécurité en Centrafrique car malgré la fin des tueries intercommunautaires, malgré l'élection d'un nouveau président en mars dernier, eh bien la tension persiste sur place, le nord du pays est encore le théâtre d'affrontements, on l'a encore vu ces derniers jours, 30 personnes ont été tués lors de violences qui ont opposé des ex-rebelles Séléka et des éleveurs. Par ailleurs, depuis dimanche, dans le quartier du PK5, à Bangui, dans la capitale, 5 policiers sont retenus en otage par un groupe d'autodéfense. L'opération militaire pour tenter de les libérer a fait 7 morts et des centaines d'habitants ont fui ce quartier. Alors comment expliquer une telle reprise de la violence? Comment expliquer cette recrudescence de l'insécurité? Êtes-vous surpris, vous qui êtes sur place d'ailleurs par ces derniers événements? Vous continuez à nous rejoindre ici à Paris, vos appels nous arrive déjà depuis quelques heures. 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Je sais que la diaspora centrafricaine est nombreuse dans l'Hexagone et vous continuez évidemment à nous envoyer vos réactions sur la page Facebook de l'émission. D'abord donc, vos questions. Marthe est en ligne, elle nous appelle de Chalon-sur-Saône, c'est en Bourgogne. Bonjour Marthe.
Bonjour Juan, bonjour aux auditeurs de RFI. Voilà, je vous appelle à propos de la primaire du PS.
Oui.
Parce que M. Cambadélis a annoncé la primaire pour le 22 janvier. Et il parle d'ouvrir les candidatures à la gauche du gouvernement. Alors j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il entend par la gauche du gouvernement, que vont devenir les frondeurs, et comment va s'organiser cette primaire?
Bonjour Valérie Gasse.
Bonjour Juan, bonjour Martin.
Vous êtes journaliste au service politique d'RFI. Alors ça ne sera pas une primaire de la gauche, mais une primaire de la gauche du gouvernement. Alors, et la nuance est importante.
Oui, c'est même de la gauche de gouvernement.
Cette
nuance, elle est vraiment importante, Marthe. Et donc, ouais, l'annonce de la primaire, elle a pris un peu tout le monde de court. Hein. Jean-Christophe Cambadélis, en grand tacticien, hein, comme on le connaît, eh ben, il a annoncé ça la semaine dernière. Personne ne s'y attendait vraiment. Et la question de Marthe est juste ici, à savoir qu'est-ce que ça veut dire, cette gauche de gouvernement. C'est donc qu'il y a un périmètre limité. Hein. Pour ceux qui y participeront, on peut commencer par dire que déjà, ceux qui n'y participeront pas, et peut-être que Marthe va être déçue, j'ai l'impression, les écologistes d'Europe Écologie Les Verts, qui ont quitté le gouvernement, les communistes, et puis Jean-Luc Mélenchon. Hein. Jean-Luc Mélenchon, on le sait, a déjà annoncé qu'il était candidat à la présidentielle, et il fait cavalier seul d'ores et déjà contre Hollande.
Et c'est d'ailleurs le fait d'avoir annoncé qu'il ferait cavalier seul qui a peut-être incité le Parti Socialiste à organiser cette primaire, non?
Oui, et déjà pour une chose très simple, c'est qu'il y avait déjà une autre idée de primaire, en janvier, lancée par des militants associatifs syndico-politique, c'était la primaire des gauches. Hein, cette primaire des gauches qui devait réunir tout le monde, socialiste, non-socialiste à gauche. Eh bien, finalement, en annonçant sa candidature, d'ores et déjà, Jean-Luc Mélenchon l'a un petit peu fait avorter dans l'œuf. Et c'était une initiative à laquelle le Parti Socialiste n'était pas associé au départ, mais Jean-Christophe Cambadélis avait dit « Ok, on veut bien y participer », en sachant que ça aurait peu de chances d'aboutir, ce qui a été le cas. Et du coup, la gauche de gouvernement est apparue, cette primaire de la gauche de gouvernement, c'est le Parti Socialiste et ses alliés du gouvernement, c'est-à-dire le Parti Radical de Gauche et les écologistes de l'UDE. Alors maintenant, on s'y perd un peu. Hein. Dans les écologistes, l'UDE, c'est l'Union des démocrates et des écologistes, c'est ceux qui sont partis d'Europe Écologie Les Verts.
Et qui soutiennent la politique du gouvernement. Donc.
Et qui soutiennent la politique du gouvernement, qui sont même rentrés au gouvernement lors du dernier remaniement en février 2016. Donc on a vu par exemple Emmanuel Coste qui est entré au gouvernement, ancienne dirigeante d'Europe Écologie Les Verts, qui a quitté le parti. Et on se rappelle que avant, Cécile Duflot avait, elle, décidé de sortir du gouvernement à l'arrivée de Manuel Valls à Matignon. Alors ces écologistes de l'UDE, ils seront certainement représentés dans la primaire par un député qui s'appelle François de Rugy.
Et le Parti Radical de Gauche?
Alors le Parti Radical de Gauche, eh bien Jean-Michel Baillet, hein, qui était le candidat du parti en 2011, lui ne devrait pas y retourner. Il est actuellement ministre de l'Aménagement du Territoire. Il s'en contente. Ça pourrait être Sylvia Pinel, qui est l'actuelle présidente du PRG, ou Annick Girardin, qui est la ministre de la Fonction publique. Elles se sont dites disponibles. En fait, rien n'est pour l'instant décidé.
Les candidats les plus importants viendront évidemment des rangs du Parti Socialiste.
Ouais.
Il y a déjà des candidats déclarés.
Hein. Et oui, on a Marie-Noëlle Lindemann, hein, l'une des personnalités de l'aile gauche du PS, qu'on entend souvent. clairement et elle a déjà dit qu'elle irait quelles que soient les circonstances. Après, bien sûr, la question c'est de savoir s'il y aura une candidature unique soutenue par les frondeurs pour répondre à Marthe ou s'il y en aura plusieurs. Et puis, comment vont se positionner certaines personnalités comme Martine Aubry dans ce débat de la primaire où on ne sait pas vraiment. La question principale, c'est quand même celle de la candidature d'Arnaud Montebourg. Est-ce qu'il y va? Est-ce qu'il n'y va pas?
Il laisse planer le doute.
Il est très habile. Après l'annonce de la primaire, donc vendredi dernier, il a dit que sa candidature était plausible, hein, je le cite, mais soumise à des conditions sur justement l'organisation de cette primaire. Il veut en fait garder la possibilité d'être candidat en dehors de la primaire si les conditions ne lui plaisent pas ou de ne pas y aller du tout. C'est forcément l'adversaire le plus dangereux si, pour François Hollande, si tant est que François Hollande soit lui-même candidat dans cette primaire. Arnaud Montebourg en 2011 avait été le troisième homme, il avait fait 17% des voix, ce qui était pas mal. Il peut y avoir aussi Benoît Hamon, ancien ministre de l'Éducation nationale, qui est sorti du gouvernement en même temps qu'Arnaud Montebourg, qui pourrait être tenté. En fait, est-ce qu'ils vont y aller en ordre dispersé ou derrière une candidature unique? C'est un peu l'un des enjeux de cette primaire.
Oui, en tout cas, l'objectif, c'est d'aller en ordre uni, d'avoir une seule candidature.
L'objectif, après, oui. Il y a
après,
la réalité.
On sait ce que c'est, évidemment. Marthe, vous avez d'autres questions?
Mais je trouve que ça sent un peu la démocratie banania, comme diraient mes amis africains.
C'est votre analyse, en tout cas, votre vision des choses. On a répondu à toutes vos questions.
Il y avait l'organisation, peut-être aussi.
Il y a le problème de l'organisation avec la limitation du nombre de bureaux de vote.
Alors, les contours de cette élection sont encore flous, hein.
Oui, on en saura plus au mois d'octobre. Pour l'instant, la seule chose qu'on sait, c'est que ce sera dans les mêmes modalités que la primaire citoyenne de 2011, donc ouverte à tout. Les bureaux de vote, les conditions de parrainage, tout ça, c'est pas très clair. On aura du mal à organiser aussi bien qu'en 2011, parce que le temps est très court.
En 2011, il y avait 10 000 bureaux de vote.
Il y avait à peu près 10 000 bureaux de vote et 2,8 millions de votants. Alors là, ce sera aussi un des enjeux. Est-ce qu'on arrivera à en obtenir autant?
Merci Marthe, bonne journée, merci de votre fidélité à Chalon-sur-Saône. Restez encore avec nous un instant, Valérie Gasse. Amir nous appelle du Gabon, il est à Libreville. Bonjour Amir.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Vous avez également des questions concernant cette primaire à gauche.
Oui, j'ai des questions. En organisant une primaire ouverte à la gauche du gouvernement, est-ce qu'il n'y aurait pas un risque de déchirement au PS?
Risque de déchirement du PS. Le PS est déjà déchiré.
Oui, Roana, il est bien divisé et il ne fait que se diviser un peu plus chaque jour, surtout avec cette loi travail dont on parle beaucoup en ce moment. A priori, du coup, l'organisation d'une primaire, ce serait plutôt pour permettre de rassembler les troupes derrière un candidat qui aurait été finalement désigné après un débat démocratique. Chacun aurait pu s'exprimer et donc faire un peu de table rase de toutes ces divisions qu'on a vues au cours du quinquennat. Ça, c'est l'objectif. Tous les opposants socialistes à François Hollande ont réclamé d'ailleurs cette primaire depuis des mois, arguant du fait qu'elle était d'ailleurs prévu dans les statuts du PS. Du côté de l'Élysée, Matignon, de Cambadélis, on considérait que Hollande, en tant que président sortant, était le candidat naturel, donc qu'une primaire était inutile. On a visiblement changé d'avis du côté de l'exécutif et du parti. Maintenant, on pense que peut-être justement c'est les primaires qui vont se diviser. On en parlait avec Marc tout à l'heure. Il y a un problème de leadership. Alors, si plus il y aura de candidatures, mieux ce sera pour François Hollande. Et puis, cette primaire, c'est un peu du sur-mesure pour François Hollande. Comme le disait Marc aussi, 22-29 janvier, donc c'est assez tard. Les candidatures annoncées en décembre, donc après la primaire de la droite, tout ça est n'est pas dû au hasard. Et puis le chef de l'État se dit peut-être maintenant, avec sa popularité très basse, une primaire, ça pourrait peut-être le relégitimer.
Et défendre son bilan et expliquer la politique du gouvernement de ces quatre dernières années.
Alors, défendre son bilan qui va aussi être attaqué durant cette primaire très fortement par les frondeurs qui veulent battre François Hollande, ne le juge pas légitime. Et de ce point de vue, Admire a un peu raison. On va avoir un débat très dur. La question, ce sera de savoir si, après cette primaire, et quel que soit le vainqueur, les socialistes qui se seront bien déchirés pourront se rassembler.
À suivre donc. Quel suspect. Merci Valérie Gasse du service politique d'RFI d'être venue répondre ce matin à quelques questions et on salue évidemment Amir de Libreville. 10h19 à Paris, nous accueillons Romuald. Bonjour. Romuald ?
Oui, allô ?
Bienvenue.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Vous nous appelez d'Abidjan en Côte d'Ivoire, on vous écoute.
Oui, j'ai la question concernant MSF. En effet, MSF a annoncé renoncer au financement de l'Union européenne en protestation de l'accord intervenu entre l'Union européenne et la Turquie. Mmh. Alors, je voudrais savoir quels sont les points de cet accord que dénonce MSF. Que représentent les subventions de l'Union européenne pour le budget global de l'organisation? Quelles en seraient les conséquences si ce financement arrivait à être interrompu?
Ouais, c'est vrai que Médecins sans frontières, pour protester contre les décisions de l'Union européenne vis-à-vis des migrants et des réfugiés, a décidé de ne plus accepter le financement de l'Union européenne et de ses États membres. Jean-Marc Jacob, c'est avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes l'un des porte-parole de Médecins Sans Frontières. Alors, comme d'autres ONG, vous dénoncez cet accord signé en mars dernier entre l'Union européenne et la Turquie. Concrètement, que reprochez-vous à cet accord ?
Pour nous, cet accord est un point culminant des politiques de dissuasion des États membres européens. Donc, dans une époque où plus de 60 millions de personnes sont en train de chercher l'asile, donc on a une crise assez énorme au niveau global, la priorité de l'Union européenne et de ses États membres est de repousser ces gens le plus loin possible de leur côte, au lieu d'essayer de trouver des solutions pour les accueillir et les protéger.
Ce que vous reprochez, c'est que l'Europe sous-traite finalement la gestion des frontières à des pays tiers. Et on le voit notamment, elle sous-traite cette gestion aujourd'hui à la Turquie.
Alors la Turquie, évidemment, ce sera un précédent puisqu'il y a d'autres accords qui sont en cours de négociation ou qui vont commencer à être négociés. Donc le fait que l'Union européenne et ses États membres se retirent complètement de l'équation pose un problème au niveau de ce que l'Union européenne peut et veut faire par rapport aux réfugiés. Évidemment, ça pose aussi toute une série de problèmes humanitaires par rapport à ce que ces pays peuvent offrir. Dans les nouveaux pays qui sont mentionnés comme potentiels partenaires, on a l'Érythrée, le Soudan, l'Afghanistan, la Somalie, qui sont 4 des 10 pays qui produisent le plus grand nombre de réfugiés. Donc on peut se poser la question de comment est-ce qu'on peut trouver des accords avec ces pays-là alors que les gens sont en train d'essayer de fuir ces pays pour une raison ou une autre.
Et c'est donc la perspective de signer de tels accords avec les pays que vous venez de citer qui a poussé Médecins Sans Frontières à renoncer au fonds de l'Union européenne, aux subventions de l'Europe ?
Oui, pour nous, il n'était pas possible, par rapport à nos principes et à nos valeurs, de continuer à collaborer sur des projets humanitaires avec des fonds provenant de pays qui pratiquent tout près de nous des politiques qui ont un impact humanitaire extrêmement négatif.
Et à combien s'élève l'aide de l'Union européenne que vous perceviez jusqu'à maintenant ?
Alors pour prendre l'année 2015, nous avions reçu de 56 millions, donc une part qui vient des institutions européennes et une part qui vient d'une série de pays européens.
Mmh. Donc 56 millions d'euros, c'est 56 millions d'euros, c'est donc une somme conséquente. Avec cet argent, j'imagine que vous venez en aide aux migrants, ça va être compliqué pour vous, non ?
Alors c'est important de souligner que nos projets avec les migrants étaient financés complètement de manière privée, donc avec des fonds privés. Par contre, évidemment, ce sont des projets dans pas mal de parties du monde qui sont financés par ces fonds. Mais nous avons des fonds de réserve qui nous permettent d'intervenir sur des urgences. Donc aucun programme MSF, aucune activité médicale ne sera touchée par cette décision. Et nous allons renforcer encore un peu plus notre récolte de fonds privés qui se base maintenant sur à peu près 5,7 millions de donateurs individuels de par le monde.
Merci d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à Romuald. Bonne journée à vous, Jean-Marc Jacobs, porte-parole de Médecins Sans Frontières. Au standard, Jean-Paul nous rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en Guinée, à Conakry, et vous avez des questions concernant le scandale du dopage organisé en Russie.
Exactement, oui, Yohan. La Fédération internationale des JO a décidé de suspendre la Fédération russe de ses compétitions. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que la suspension concerne tous les joueurs ou ceux concernés par le dopage ?
Ah, verra-t-on des athlètes russes dans 2 mois à Rio lors des Jeux Olympiques ? Christophe Jousset du service des sports est avec nous. Bonjour Christophe.
Bonjour, bonjour Jean-Paul, bonjour à tous.
Alors, verra-t-on des Russes à Rio ?
Oui, alors il y aura des Russes, probablement d'autres sports que l'athlétisme. Il y aura quand même quelques athlètes, c'est un peu compliqué. En fait, il faut commencer par dire que la sanction de la suspension concerne tous les athlètes, donc tous ceux qui pratiquent l'athlétisme en Russie. C'est bien ça qui donne une dimension inédite à cette affaire, parce que c'est sans précédent en matière de dopage. On n'avait jamais vu un pays entier puni. On est plutôt habitué à voir des sanctions individuelles, des suspensions pour 2 ans, pour 4 ans. Mais là, c'est une sanction collective. C'est tout l'athlétisme russe qui est suspendu. tout simplement parce que le système de dopage qui a été révélé, alors d'abord par la presse, ensuite les instances internationales se sont saisies de cette affaire, eh bien ce système qui est à l'œuvre en Russie était soutenu et peut-être encore toujours soutenu par l'État russe. Vous vous souvenez, Roanne, qu'en novembre dernier, la Fédération internationale d'athlétisme avait décidé de suspendre la Fédération russe. Donc tous les athlètes russes ont été interdits de compétition internationale. Les instances internationales ont exigé de la Russie des réformes pour démontrer sa volonté de tourner la page et de s'attaquer vraiment au dopage. Mais la semaine dernière, à Vienne, le conseil de l'I2AS, la Fédération internationale d'athlétisme, a estimé que les progrès étaient largement insuffisants. Donc, la suspension de la Russie a été maintenue. Donc, l'athlétisme russe ne sera pas à Rio. Et d'abord, ça, il faut souligner, c'est un événement majeur dans l'histoire du sport parce que la Russie fait partie des pays qui gagnent le plus de médailles en athlétisme aux Jeux. Deuxième au tableau des médailles à Londres en 2012, à Pékin en 2008, à Athènes en 2004. Vous voyez, c'est un poids lourd. L'IAF, alors je disais, il y aura peut-être quelques athlètes. L'I2AF a quand même laissé une toute petite porte ouverte pour les athlètes russes qui vivent depuis longtemps à l'étranger. On ferait une exception pour eux,
ah bon,
en considérant que, bah, comme ils sont à l'étranger, ils ne risquent pas d'être liés au dopage, au système de dopage organisé en Russie. Mais il faudra quand même que ces quelques expatriés démontrent qu'ils ont été contrôlés régulièrement.
D'accord, donc ce sera au cas par cas, et surtout les athlètes vivant à l'étranger. Merci Christophe Jousset d'avoir été en direct avec nous. Bonne journée à Jean-Paul qui nous appelait de Conakry. On termine cette émission avec un autre journaliste du service des sports, c'est Antoine Grenier. Bonjour.
Bonjour, Juan.
Merci d'être avec nous. Nous accueillons Maher, qui est au Togo. Maher, soyez le bienvenu.
Merci. Bonjour, monsieur Juan. Bonjour aux auditeurs de la Radio Mondiale.
Alors, on va tendre l'oreille. Le réseau téléphone n'est pas très bon. Vous avez des questions concernant Claude Leroy, le sélectionneur de l'équipe nationale de football du Togo.
Oui, monsieur Gomez. Il y a plus sur l'antenne de RFI que notre sélectionneur a été, condamné à 2 ans de prison, dont 18 mois ferme par le tribunal de Strasbourg.
Oui, enfin, il n'a pas encore été condamné. Hein. Le procureur, le parquet de Strasbourg a requis 2 ans de prison contre lui. Il n'est pas encore condamné.
D'accord. Et donc, mon question est la suivante. Quels sont les faits qui lui sont reprochés?
Alors, Antoine Grenier, effectivement, on en parle beaucoup puisque Claude Leroy est un sélectionneur très connu sur le continent africain. Les faits remontent à la fin des années 90, au début des années 2000. À l'époque, il était le manager général du Racing Club de Strasbourg. Concrètement, que lui reproche la justice française?
Alors, en l'espèce, on lui reproche lorsqu'il était manager général et entraîneur, c'est-à-dire qu'il gérait à la fois l'aspect terrain, mais aussi l'achat et la vente de joueurs, et ben d'avoir participé à une sorte de système de transfert frauduleux, c'est-à-dire que l'argent des transferts de certains joueurs, dont deux internationaux camerounais, Joseph Ndo et Pierre Njanka Beyaka, auraient permis des rétrocommissions à des agents. Alors pour ça, la justice a dû chercher à comprendre le fonctionnement du RC Strasbourg à l'époque où il était la propriété d'un groupe américain, IMG McCormack, une société qui a des activités de marketing dans le sport. Et dans cette affaire, le groupe est soupçonné d'avoir contourné la législation qui interdit d'exercer à la fois les activités d'agent sportif et de propriétaire de club, une législation qui est faite justement pour éviter que les vendeurs et les acheteurs soient les mêmes personnes. Claude Leroy, dans cette affaire, la justice le soupçonnait d'avoir touché de l'argent sur les mouvements de joueurs, bénéficiant ainsi de transferts qu'il initiait d'une certaine manière lui-même. Ce dont le technicien français s'est toujours défendu, il a concédé toutefois qu'il n'avait pas toute la connaissance nécessaire sur la législation des transferts.
Ouais, il disait qu'il ne savait pas finalement grand-chose des lois qui régissent le monde du transfert.
Il a même dit que le costume était peut-être un petit peu grand pour lui. Et c'est pour ça que le tribunal de Strasbourg, dans son réquisitoire donc de 2 ans de prison, dont 18 mois avec sursis contre lui reprochait une légèreté blâmable, mais a souligné qu'il n'y avait pas eu d'enrichissement personnel du côté de Claude Leroy.
Donc pas d'amende, c'est ce qui explique qu'il n'a pas d'amende, mais effectivement, le parquet réclame donc ses 2 années de prison. On connaîtra le verdict quand?
Le 13 septembre prochain, on saura, donc juste après la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2013. D'ici là, il devrait rester à la tête des éperviers du Togo, puisque le président de la fédération, Guy Akpovi, lui a assuré son soutien total.
Merci beaucoup d'être venu répondre à notre auditeur de Lomé. Restez à l'écoute des RFI dans un instant. Le journal, et on revient dans 10 minutes. Nous parlerons de l'insécurité en Centrafrique. À tout de suite.
Priorité santé. Claire Hédon vous invite.